15h.
RTS Info, Christine Mattei.
Le Parlement européen a adopté la première loi de l'Union européenne pour combattre les violences faites aux femmes. Un texte qui exclut le viol faute d'accord entre les États membres sur une définition commune. Cette nouvelle législation criminalise au niveau européen les mutilations génitales, le mariage forcé, le partage non consenti d'images intimes ou encore le cyberharcèlement. Elle ouvre ainsi la voie à des sanctions harmonisées au sein des 27 pays de l'Union. Pendant ce temps, le Parlement italien a voté une loi qui autorise les militants anti-avortement à accéder aux cliniques de consultation. Une mesure du gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni qui a provoqué l'indignation des partis d'opposition. Des groupes pro-vie ont déjà accès aux cliniques de consultation dans plusieurs régions dirigées par la droite. Cette nouvelle mesure pourrait aboutir à l'extension de cette pratique au niveau national. L'accès à des avortements sécurisés en Italie est déjà difficile en raison du nombre élevé de gynécologues qui refusent de les pratiquer, évoquant des raisons morales ou religieuses. Autre décision européenne, le Parlement de l'Union a adopté une loi qui impose un devoir de vigilance aux entreprises. Elles devront désormais veiller au respect de l'environnement et des droits humains dans leur chaîne de production partout dans le monde. Les eurodéputés ont approuvé ce texte exactement 11 ans après l'effondrement de l'usine textile Rana Plaza au Bangladesh. Ce drame avait mis en lumière l'absence de contrôle sur les conditions de travail dans les pays tiers. Le programme de soutien de la Confédération pour l'encouragement de l'accueil extra-familial pour enfants doit être prolongé jusqu'à fin 2026. Le Conseil fédéral s'est prononcé aujourd'hui en faveur d'une initiative parlementaire qui vise à une prolongation temporaire. À Fribourg, un guichet permet désormais d'aller ouvrir un dossier électronique du patient. Il a été inauguré ce matin à l'hôpital fribourgeois. La procédure gratuite nécessite une pièce d'identité et un smartphone avec accès à un email. Les patients peuvent aussi ouvrir leur dossier électronique en ligne grâce à un système de vidéo-identification, précise le canton. Le vaste plan américain d'assistance militaire et économique à l'Ukraine n'attend plus que la signature du président Joe Biden au lendemain de son adoption, après des mois de tractations aux États-Unis. L'assistance militaire américaine est interrompue depuis plusieurs semaines. L'aide à l'Ukraine de 61 milliards de dollars a reçu hier un très large soutien au Sénat américain. Joe Biden a promis d'envoyer de l'aide dans les prochains jours. L'opération Oiseaux de nos jardins est lancée. La ville de Lausanne, en association avec BirdLife, appelle la population à passer une heure à compter les oiseaux depuis sa fenêtre, son jardin ou un parc public. Le recensement aura lieu du 8 au 12 mai. Un cours gratuit d'initiation à l'identification des oiseaux les plus courants aura lieu le 30 avril à la maison de quartier Sougar, suivi d'une mise en pratique. Il faut s'inscrire car les places sont limitées. Les données pour Lausanne et l'ensemble du pays, il est bien sûr possible de participer partout en Suisse, seront ensuite évaluées et comparées aux années précédentes. Après le prologue d'hier, on remonte en selle ce mercredi. La première étape du Tour de Romandie cycliste s'était lancée à 13h30 entre Châteaudet et Fribourg. On retrouvera nos envoyés spéciaux en direct dans les bulletins de 16 et 17h. Il fait frais cet après-midi au thermomètre 10 degrés en plaine, limite de la neige à 700 mètres. Temps toujours frais demain, mais plus de soleil. Par contre, il y aura plus de nuages sur le nord de la Suisse romande.
Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch.
Couleur 3.
Les deux tiers de ces neurones se trouvent dans ces tentacules qui sont donc capables de toucher, goûter et se mouvoir sans solliciter le cerveau. Le poulpe est une des créatures les plus imprévisibles qui soient.
Le poulpe, Yannick Neveu.
Le poulpe, the octopus, the tintinfish, black spotter, jangue, taco, polpo, polvo, mushtekala, sugu, kahexayalg, shtapovi, ksharnita, octopod, karakatitsa, polyp, Osminog, Blackfisk, Stephen Baldwin, Gabriel Kschwend, El Pulpo.
Welcome back to Trend.
21 Pilots, le morceau s'appelait Overcompensate. Moi, quand j'étais gamin, j'étais assez fasciné par le slime. Vraiment, c'était un truc qui me fascinait. En gros, à la sortie de Ghostbusters en 1984, bah, j'avais eu la bonne idée de sortir ça comme produit dérivé. Moi, j'avais 6 ans, évidemment, ce machin un peu gluant, je trouvais ça super. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas les sous pour s'acheter du slime officiel de Ghostbusters. Donc, on avait trouvé le moyen d'en fabriquer nous-mêmes. Parce qu'il y a, en fait, c'est assez facile, on peut faire ça à la maison. Je vous donne la recette pour fabriquer son propre slime à la maison. Il faut de la colle, du colorant alimentaire pour la couleur. Prenez du vert, c'est plus sympa. De la fécule de maïs. Voilà, jusque-là, c'est assez facile à trouver. De la poudre de borax. Bon, voilà, vous allez en pharmacie, vous demandez de la poudre de borax, ils vous vendent ça. Et puis après, vous pouvez mettre soit de la lessive, soit de la mousse à raser, ça dépend des recettes. Voilà. Et du coup, c'était moins cher que le slime officiel. Et sinon, encore moins cher que ça, moi, ce que j'avais trouvé, c'est qu'en fait, je collectionnais mes crottes de nez.
Spectrum.
Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit? Avez-vous jamais vu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Si la réponse est oui, n'attendez plus.
Pour les fans de pop culture, 1984 fait partie des grands crus, particulièrement en matière de films. Le flic de Beverly Hills, Amadeus, Karate Kid, les Gremlins, Indiana Jones et le Temple Maudit, mais surtout Ghostbusters, SOS Fantôme pour la version française, toute première comédie à effets spéciaux qui va consolider l'ère des blockbusters. On se refait l'histoire de ce monument dans Spectrum, c'est Philippe Vaudan en maître des clés. Moi, c'est Helen Schters. Alors, on appelle qui ?
Who you gonna call?
Okay, roll the drums.
I don't really know. It's a long involved story.
Spectrum, la pop culture en vectoriel.
Spectrum.
C'est absolument inepte. J'exige une explication.
Vous l'aurez. Cette université refuse de continuer à financer votre équipe de travail et vos multiples expériences.
Les jeunes nous adorent pourtant.
Après avoir trouvé le casting idéal, après avoir réécrit le script, Ivan Reitman, Dan Aykroyd et Harold Ramis doivent convaincre Columbia de lâcher le budget pour une comédie à effets spéciaux. Une première. Avec 200 plans nécessitant des effets, c'est un véritable défi. Aucun studio spécialisé n'est disponible sur les 12 mois alloués pour boucler le film. Tout le monde est super occupé sur le tournage d'Indiana Jones et le Temple Maudit et sur le retour du Jedi. L'équipe de Ghostbusters décide alors de contacter Richard Edlund, responsable des effets sur le premier Indiana Jones, sur le premier Star Wars et sur Poltergeist. Il lui propose de créer sa propre boîte d'effets spéciaux.
Gozer, le gozerien !
Bonsoir à toi. En tant qu'envoyé officiel et représentant de cette ville, du comté et de l'État de New York, je t'ordonne de cesser toute activité surnaturelle et de retourner immédiatement d'où tu viens, ou si ça t'arrange, dans la plus proche dimension parallèle.
C'est bien, ça devrait marcher, Ray.
Es-tu un dieu?
Non.
Alors, péris.
Aussi vite dit, aussi vite fait. Mais le défi est encore plus gigantesque. Car avec un script et un casting en cours de finalisation, et au vu du délai très restreint offert par Columbia, il faut faire vite, imaginer des décors et les construire. Ivan Reitman sait qu'il n'aura aucune possibilité de filmer de scènes additionnelles. Sa seule option sera de couper, rien de plus.
Vous voulez un renseignement ?
Je n'ai pas pris rendez-vous. J'aimerais parler à un responsable, s'il vous plaît.
Je suis Peter Wagman. Je peux vous aider ?
C'est difficile. Ce que je vais vous dire vous paraîtra de l'ordre de l'irrationnel.
Oh, c'est le pain quotidien de notre entreprise. Passez dans mon bureau, mademoiselle...
Barrett, Dana Barrett.
Mais les choses avancent. On engage Sigourney Weaver, toute contente de jouer dans une comédie après des rôles sérieux, dont Alien. On engage Rick Moranis, tout content lui aussi. Et puis, dans le script, on rajoute un quatrième Ghostbusters. Et là, c'est un peu flou. Une rumeur raconte qu'on aurait approché Eddie Murphy pour le rôle de Winston Zeddemore. Rumeur démentie par Ivan Reitman, c'est finalement l'acteur Ernie Hudson qui aura le rôle. On engage enfin l'actrice Annie Potts pour être la mythique secrétaire des Ghostbusters.
Allô, SOS Fantôme? Oui, bien sûr que c'est sérieux.
Ah oui? Vous en avez? Pour de vrai?
Donnez-moi votre adresse. Oui, bien sûr. Oh, ça va de soi, discrétion assurée. Merci.
On a un client!
Autre challenge, défier Hollywood la toute-puissante en posant New York comme décor du film pour que la ville devienne en elle-même une actrice principale du film. En 1984, la Grande Pomme, longtemps restée dans l'ombre à cause de sa violence et de son taux de criminalité, a tout à reconquérir. Aujourd'hui, impossible d'imaginer Ghostbusters sans New York, sans son building maudit de style gothique et surtout sans la National Library de Bryant Park, dans laquelle encore aujourd'hui des fans du film font irruption en costume juste pour emmerder les lecteurs et lectrices.
Bonjour, je suis Roger Delacorte. Vous êtes envoyé par l'université?
Oui, professeur Venkman, professeur Stantz et Egan.
Merci d'être venu. J'espère que nous réglerons tout ça rapidement et calmement.
Oh, ne brusquons rien. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire.
Les deux derniers obstacles seront d'ordre juridique. Il faut pouvoir obtenir le droit d'utiliser le terme Ghostbusters, déjà pris par un show télé pour enfants dans les années 70. Et il faut aussi convaincre les créateurs du dessin animé Casper le Petit Fantôme que le logo de Ghostbusters n'était pas un plagiat de l'un de leurs personnages.
Hey, tu trouves pas que c'est un peu trop intello comme enseigne? Tu crois pas que les gens vont passer devant là comme ça en bagnole sans la remarquer?
En février 1984, le tournage est terminé. Après des dizaines de milliers de dollars investis dans des décors gigantesques, dans des costumes en mousse démultipliés pour les différents plans du Bibendum Chamallow, dans des tonnes de mousse à raser pour l'explosion du dit Bibendum Chamallow, dans des animatronics pour Slimer le fantôme gluant, pour les chiens de Gozer, dans des souffleuses pour la scène de la bibliothèque. Il y eut des incendies, il y eut des dos massacrés pour se trimballer les 14 kilos de matériel sur le dos des Ghostbusters. Surtout, Ivan Reitman tailla, tailla et tailla encore une cinquantaine de plans. Le film était enfin prêt.
Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels.
SOS Fantôme!
Nos spécialistes sont à votre disposition 24 heures sur 24. Où SOS Fantôme passe, les spectres trépassent.
Osez parler, nous sommes prêts à vous croire.
Spectrum, la pop culture en vectoriel. La 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 la.
Yo. What's the deal, nigga? Ain't nothing, pa. We just here laughing and all that. Trying to get our heads right, get this money right and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. It's another day in the hood. Yo. Yo. Hey, yo, one at night, New York City. Heard it going down. Friday night, midnight, Atlantic City. Slash machines, ding, 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 ding. When they ring off, lock the doors. That's when ghosts just beat those. Bitches guarded me safely as we walked to the window. The cashier was scared, she asked for my info. The manager arrived with two guys, that's an insult. That's the cold, Mr. Coles. We talking about
$5 million. Yeah, this ain't Play-Doh dough. And your horoscope red, you're going to slay those hoes. We got Scribbles, Anthony Acid, rocking the show. Special guest star, Mark Bronson. First 500 bitches went crazy when he let they aunts in. And all he did was plug me in. I got the charge and got they bras and ran through they whole department.
Poser cette guitare maintenant. C'était Mark Ronson, le morceau s'appelait Oh Oui. J'ai des places à vous offrir pour un très beau festival qui a commencé déjà la semaine passée puis qui dure encore cette semaine et qui se termine ce dimanche 28 avril. Alors j'ai des passes à vous offrir pour BDFIL, excellent festival de bande dessinée qui a lieu à Lausanne, un petit peu dans tout le quartier de la gare, dans plusieurs endroits. Il y a la Razude, il y a Plateforme 10, voilà, il y a plein d'endroits où il se passe des choses, vraiment beaucoup d'événements. Vous pouvez aller sur bdfil.ch pour regarder tout le programme. Moi j'ai des passes à vous offrir pour le samedi 27 avril ou le dimanche 28 avril. En gros, c'est un peu le week-end où il se passe des trucs. Les expos, vous pouvez aller les visiter pendant la semaine, mais durant le week-end, il y a des rencontres avec des auteurs de BD, des autrices de BD, il y a des tables rondes, il y a plein de choses qui se passent, des conférences, et eh bien j'ai des passes à vous offrir pour ça. Vous nous écrivez, attendez, vous appelez pas, hein, appelez pas parce que je dois prendre votre adresse postale et ça c'est compliqué par téléphone. Vous nous écrivez à couleur3@couleur3.ch, je redis couleur3@couleur3.ch, et puis vous nous donnez votre nom, votre prénom et puis votre adresse postale, parce que on va vous l'envoyer par la poste, le pass pour BDFIL. Donc pour ce samedi 27 avril ou dimanche 28 avril, des passes pour le festival BDFIL. C'est à Lausanne que ça se passe, il se passe plein de choses, c'est vraiment très très bien. Et puis la semaine passée on vous avait demandé on vous avait déjà offert des places, hein, et puis on vous avait demandé de nous faire peut-être une petite BD si vous vouliez, et bien Sandrine nous a envoyé une petite BD. Alors c'est pas elle qui l'a dessinée, c'est Arthur 10 ans qui a fait une super BD de moi déguisé en Homer Simpson pour de vrai. Écoutez, je la posterai en story sur mon compte Instagram pour les gens qui sont abonnés à moi, et c'est très drôle. Arthur a beaucoup de talent, je le dis, à moi à 10 ans je dessinais pas comme ça. Donc Arthur, si tu veux continuer dans la BD, moi je ne peux que te conseiller de le faire. Voilà, couleur3@couleur3.ch, la BD sous toutes ses formes dans le festival BDFIL ce samedi 27 ou ce dimanche 28 avril. couleur3@couleur3.ch, votre nom, votre prénom et votre adresse. On écoute un morceau de Swear I Love You qui s'appelle My Pain. Faisant de Swear I Love You à l'instant sur Couleur 3. Et notre invité est arrivé.
Hey
oh, ok, c'est super de se retrouver, très ému, blablabla, bla, 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 baratin habituel. Allez, tout le monde en place sur le plateau.
Le poulpe.
Un peu de café.
L'invité.
Cette semaine avec Fifi, on revit en quelque sorte Cannes Série, le festival de la série qui se déroulait sur la Croisette du 5 au 10 avril dernier. Festival qui programmait des séries en compétition de tous horizons et tout format, et aussi des séries événements hors compétition comme par exemple Fallout, la fameuse qui cartonne en ce moment sur Prime Video.
Ah ouais, elle est l'œuvre du frère de Christopher Nolan, Jonathan Nolan. Elle met en scène Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moses Arias pour les personnages principaux. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jeter un œil.
Vite fait, oui, ça a l'air assez ambitieux. Hein.
Top, c'est top, ouais. C'est top. Mais dès les premières images sur l'écran géant du théâtre Lumière Canoë, tu tombes à la renverse. C'est plus de la série moche pensée pour le petit écran, mais bel et bien de la série de luxe où tu en prends plein les yeux dans une salle de cinéma. La frustration, elle est là, c'est que ça a été de ne voir que les deux premiers opus et de vite me jeter ensuite sur les suivants, sur mon tout petit ordinateur en rentrant de Cannes. Mais là encore, pas déçu, non, bien au contraire.
Alors, faut peut-être qu'on rappelle de quoi il retourne pour les novices. On est dans un monde post-apo, directement inspiré de la série de jeux vidéo Fallout et de ses spin-offs. En fait, une guerre nucléaire a ravagé la planète. À la surface, c'est la survie dans un monde où la vie ne tient plus qu'à un fil. Et au sous-sol, il existe des communautés qui vivent dans des abris anti-atomiques conçus 200 ans plus tôt et qui attendent pour certains le moment propice pour remettre le nez dehors.
Voilà, c'est ça. La série commence donc en surface dans les années 50, alors qu'un cow-boy de télévision, une vedette sur le déclin mais qui a encore la cote auprès des enfants, anime un goûter chez des nantis où les mômes sont heureux d'avoir leur vedette à leur côté. Lui, il fait le job avec sa gamine métisse. C'est très rare quand même dans cette Amérique des années 50. Puis d'un seul coup, un champignon atomique est visible au loin, c'est la panique. Certains se ruent dans un abri construit sous la maison. Le cow-boy, lui, doit fuir avec sa môme. Petite ellipse, on est 200 ans plus tard, dans l'abri 33. La fille du boss doit se marier avec un gars de l'abri voisin. Ils ne se sont jamais vus, mais elle a hâte. Ici, on vit dans l'harmonie, la paix, le respect. On a des vivres et de l'eau en abondance. On cultive aussi et on s'autosuffit. Ceci dit, il faut ouvrir quand même ses portes à l'abri voisin, donc avoir pris toutes les précautions pour ne pas risquer une intrusion. Sauf que, à peine le mariage célébré, que ça déconne. En fait, deux voisins, ce sont des pilleurs de la surface qui sont invités à la fête. On dessoude à tout va, tout le monde ou presque. On capture le boss et on laisse sa fille en vie. Très vite, la gamine, une sorte de candide, pas du tout taillée pour affronter le monde sans foi ni loi des terres désolées, va prendre son courage à deux mains pour tenter de retrouver son papa kidnappé. Cette quête est directement tirée d'un des jeux vidéo. Vous ajoutez un personnage de ghoul, en fait un être irradié, sorte de mort-vivant increvable. C'est notre fameux cow-boy du début. Vous ajoutez encore une autre histoire liée à un jeune écuyer d'un cheval chevaliers, de la confrérie de l'acier, sorte de secte militaire qui entend bien dominer les terres désolées grâce à ses chevaliers invincibles dans leur armure démente. Le jeune écuyer va avoir l'occasion de revêtir une de ses armures et se prendre un peu au jeu en découvrant son nouveau pouvoir. Les trois personnages vont évidemment se retrouver, faire un bout de chemin ensemble et en plus de retrouver son père, eh ben il faudra surtout tenter de retrouver une puce électronique planquée dans une cervelle. Une puce qui pourrait bien sauver le monde. Donc de l'action, des décors grandioses, intérieurs comme extérieurs, un peu de gore, mais moins que dans les jeux quand même. Des personnages attachants, une charge contre le capitalisme ou pour assurer toujours plus de fric, on est même prêt à déclencher une guerre nucléaire s'il le faut. Un soupçon d'eugénisme avec le désir de sauvegarder une race dirons-nous arienne qui reprendrait les ficelles du monde quand ce sera temps de montrer le bout de son nez à la surface. Et vous obtenez Fallout, une série qui a fait un carton à Cannes Série et que je vous invite réellement, si ce n'est déjà fait, à visionner d'urgence sur Prime Video.
Et ben c'est noté. Et je note aussi que Kyle MacLachlan était à Cannes pour présenter la série avec entre autres le réalisateur Jonathan Nolan et avec Ella Purnell aussi.
Oui, c'est ça. Alors elle a reçu une récompense de jeune actrice en devenir et Kyle MacLachlan a reçu une récompense de vieil acteur qui a marqué son époque. Mmh. On rappelle juste qu'il était le flic du FBI de Twin Peaks, qu'il était le mari de Brie Van de Kamp dans Desperate Housewives et qu'il a fait du cinéma aussi, toujours sous la direction de Lynch dans Blue Velvet ou même dans Dune. Mmh. À Cannes, il a fait une apparition publique le temps d'un Q&A où le public n'a pu poser qu'une seule question finalement. Enfin, une interview fluff, j'adore ce genre de truc, quelle connerie. Une interview menée par un journaliste de Canal, dommage. Bon, ceci dit, il a expliqué pourquoi il avait dit oui à Twin Peaks alors que c'était pas gagné d'avance. Attention, c'est un son enregistré quand même à la volée dans la salle, donc c'est pas du top top top. Kyle MacLachlan. C'est marrant parce que ça s'appelait à la base le Passage Nord-Ouest. C'était le titre original. Et quand David m'a présenté le projet, il m'a parlé d'un détective du FBI qui mènerait une enquête. Un rôle qui me reviendrait. Mark Frost, qui a écrit la série et le pilote avec David, ne me connaissait pas. On ne s'était jamais rencontrés avant. Je savais que Mark avait écrit Elm Street Blues, une série à succès. Donc on a dîné dans un restaurant de Los Angeles. On a eu une magnifique conversation. Et puis les deux se sont dit, c'est le bon mec. Donc Mark m'a envoyé le scénario. J'ai quand même eu quelques réticences très vite. Je me demandais si j'allais vraiment le faire. Bon, j'étais pas si inquiet que ça, mais je n'arrivais pas à deviner ce à quoi ça allait ressembler. Et puis finalement, ça n'a plus été un problème parce qu'en fait, dès le début, personne ne savait ce qui se passerait. La seule chose sûre, c'est que David Lynch allait faire de la télévision et ça, c'était hyper excitant. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait vraiment une stigmatisation de la télévision et j'étais donc sur le point de changer de carrière, de passer du cinéma à la télé. J'avais fait Dune, Blue Velvet, j'avais donc cette opportunité de faire de la télé, mais pour être honnête, je savais que l'on me proposerait encore des projets de films, donc j'ai senti que je devais suivre cette voie et puis c'est tout. Je me suis dit que je pouvais aller à la télé parce que David Lynch allait à la télé.
Kyle MacLachlan, enregistré lors de sa rencontre publique lors du festival Cannes Série, un acteur crédité au générique de Fallout, à voir à tout prix en ce moment sur Prime Video. Fifi, tu restes là.
Oui.
Dans quelques instants, tu reviendras sur une série documentaire qui t'a tapé dans l'œil, Dale l'Infini. Filtré qui devrait sortir sur Canal Plus d'ici la fin de l'année.
Thank you. you know you're mine.
White Tiger, c'était la belle chanson de Easy Bisou à l'instant sur Couleur 3.
Le Poulpe.
Dans Le Poulpe aujourd'hui, Fifi fait un bout de chemin avec nous, le temps de nous présenter des séries découvertes lors de la 7e saison de Cannes Série début avril. Et tu tenais à mettre en avant Dale l'Infiltré, dévoilé dans la section séries documentaires.
Ouais, Dale l'Infiltré, réalisé par David André, une série géniale en 4 épisodes pour Canal. On plonge au cœur des dispositifs d'infiltration de la police de Washington entre 1988 et 2009. On suit un type pas comme les autres, père de famille, pasteur protestant le jour, qui prend soin de ses oies, et flic infiltré la nuit, grimé en junkie ou en mafieux, ou même en producteur de rap véreux. Ce type a failli vriller, passer de l'autre côté à force de jouer au flambeur pour être crédible, à force de frayer aussi du côté obscur de la force dans des boîtes de strip, à force encore de cramer du fric gagné facilement. Bref, Dale l'infiltré a failli devenir un gangster tant il prenait goût à mener cette vie, mais Dieu et surtout son épouse ont su le ramener dans le droit chemin.
Bon, on comprend que ce personnage semble assez hors du commun, mais qu'est-ce qui fait réellement l'originalité de la série ?
Bien, la force provient d'un stock fabuleux d'images d'archives tournées en caméra planquée lors de ces différentes infiltrations utilisées ici sans autorisation du FBI. C'est leurs images pourtant.
Ok.
Mais bon, la prod s'en fiche visiblement. Ils espèrent que le FBI, en découvrant la série, ne trouvera rien à redire. Et puis voilà. Oh. La réalité, comme on ne l'a jamais vue, se joue donc sous nos yeux. À la fin des années 80, Washington est la capitale du crime et du commerce de drogue. 10 fusillades chaque nuit en moyenne, 500 morts par an. La police doit donc agir et dans ce contexte, Dale va se faire passer pour un acheteur de drogue, pour mettre les dealers en confiance et éviter de se faire buter. Il se fait des fausses traces de piqûres sur les bras, comme il est frêle, binoclard, peureux, qu'il ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout à un policier. Eh bien, le plan fonctionne. Il adopte la coupe mulet, porte une boucle d'oreille. Sa femme, ses filles aussi finissent par se dire que ce mari ou ce papa pasteur est quand même un peu chelou. Son taux de réussite monte vraiment en flèche. Alors le FBI l'aide à avoir beaucoup plus haut. On fabrique de toutes pièces des façades, des entreprises bidons truffées de caméras dans lesquelles défilent des crapules de la ville qu'il va confondre. Dale a vraiment le sens du détail. Il a observé que les criminels voient un culte à Scarface ou au parrain. Et donc quand il doit jouer un mafieux, il s'inspire des Sopranos avec Rolex au poignet, bagouze au doigt, photo du grand-père au mur, sans oublier le crucifix, les cheveux bien gominés et la tchatche, surtout la tchatche, pas d'accent, jamais d'accent car il n'est pas sûr de pouvoir le conserver en toutes circonstances. Bref, ce type se prépare comme un acteur et ça marche. Bien sûr que certains trafiquants moins dupes vont le démasquer et vouloir sa peau, mais le hasard, ou Dieu s'il existe, l'aidera à échapper à la mort. Des petits dealers au cartel mexicain, l'ascension de Dale l'infiltré est ainsi racontée en 4 épisodes de 30 minutes, aussi passionnant que délirant. Et dire que cette idée, David André l'a eue en lisant le journal. C'est clair que c'est généralement dans la presse que l'on dégote les meilleures idées de films ou de documentaires. Les explications du réalisateur David André.
Le projet est venu par la presse américaine, par un article du Washington Post, qui a été. Il y a une société de production qui a approché le. Il y a une société de production qui a approché le pasteur infiltré. Et ensuite, je suis allé le rencontrer. Et au début, on avait prévu de vraiment focaliser sur une grosse opération, de faire la série sur la dernière opération de la série, qui est l'histoire d'un faux studio de rap et d'un cartel mexicain. On a eu des problèmes avec un certain nombre de gens qui ne pouvaient pas participer pour des raisons de sécurité, raconter cette histoire. Et donc, je me suis dit, j'avais envie de refaire le parcours de 25 ans, de la naissance un peu de cet undercover, depuis les rues de Washington jusqu'à ces grandes opérations qui sont devenues un peu mythiques pour la police. Et donc voilà, donc ça a été un travail à la fois de collecte de ces images, lui, de tout ce qu'il avait conservé, d'échange avec lui pour construire quelque chose, d'échange avec tous les copains de la police et tous ses camarades avec qui il a mené ces opérations absolument dingues, et un peu sa famille.
Ouais. La première fois que vous le rencontrez, quelle sensation vous avez ?
Alors, Dale est vraiment un personnage très attachant. D'abord, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour sur lui-même, qui se considère pas du tout comme un héros, qui considère presque qu'il a fait des pitreries en se transformant toute sa vie en mafieux italien, dealer mexicain, patron de strip club, faux patron de faux studio de rap, que tout ça c'était comme un jeu pour lui. C'est un joueur aussi, c'est quelqu'un qui a la foi, qui est un pasteur protestant, qui fait beaucoup pour les autres. C'est aussi quelqu'un qui était sincèrement désolé par l'état de sa ville. Marseille, c'est 43 morts par an. En France, on parle que de ça. Washington, c'était 500 morts par balle par an, et c'est plus petit que Marseille. Plus des milliers de blessés. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment convaincu de faire le bien aussi en faisant ça, en piégeant les méchants, pour dire les choses très bêtement. Donc voilà, il y a une grande sincérité chez Dale.
Est-ce qu'il n'y avait pas une manière aussi pour lui de mettre sa foi à l'épreuve, quoi ?
Sûrement. Sûrement, d'autant que Dale a voulu mettre sa foi à l'épreuve à travers ça, sans doute. Et il a eu aussi beaucoup de tiraillements intérieurs. Puisqu'en théorie, il devait faire 2 ans dans la police et puis redevenir pasteur. Et puis finalement, il a fait 25 ans dans la police. Et pour un engagement pour le bien public, mais aussi parce qu'il adorait ça. Et donc, il y avait des moments où il se disait quand même... mener cette vie que j'aurais jamais vécue avec des grosses bagnoles, de l'argent qui m'est donné par le FBI, aller dîner dans les plus grands restos, aller dans les strip clubs, et vivre la vie d'un gangster, c'est tellement sympa. Et j'adore tellement cette vie aussi de les piéger, ce plaisir du jeu. Donc je pense qu'il y a une tension aussi entre sa foi, son engagement religieux, et une culpabilité, je pense, et le plaisir qu'il tirait de cette vie-là.
Ça aurait pu être un acteur studio phénoménal, ce type. Hein. La manière qu'il a de se préparer, de rentrer dans ses rôles comme ça, c'est une précision absolue. Il sait qu'il met sa vie en danger s'il loupe le moindre détail, mais quand même.
Ouais, il y a vraiment quelque chose du domaine de la comédie, de comme quand on va voir un film de cinéma où on croit que c'est vrai. Les gangsters qui rentrent dans les endroits où Dale les reçoit croient que c'est vrai, alors que tout est faux. Le décor est faux, les gens qui sont là sont des flics aussi. Ils ont l'air de truands, mais ce sont des flics. Dale est un dealer mexicain, un intermédiaire italien. On y croit, tout simplement parce que tout a été fait pour qu'on y croit. Et en ça, il y a quelque chose qui est du domaine de la création.
C'est marrant comme il se prépare à être par exemple un mafieux en prenant les iconographies qu'on voit dans les films, quoi. Il s'inspire des Sopranos, vas-y je mets la Rolex, des bagouses, etc. Parce que c'est l'image que les gangsters, ils ont cette image-là des mafieux. Mais par contre, il fait attention à ne pas avoir d'accent, parce que jamais il le perd, il est démasqué, quoi.
Ouais, il y a quelque chose qui est saisissant, c'est pour incarner un mafieux mexicain ou un patron studio de rap, en fait, Dale, il n'est pas dans un souci de réalisme. Il est dans le souci de quelle est la vision véhiculée de ce personnage, par exemple, par les films de Scorsese, par Scarface. Et donc, quand il se transforme en mafieux italien, il a vraiment toute la caricature du mafieux italien. Mais tous les mecs des gangs de Washington, qui ont 25 balais, rêvent de rencontrer un vrai mafieux italien. Et donc, finalement, il correspond à ce à quoi ils s'attendent. Et donc, c'est intéressant de voir comment, finalement, la fiction fabrique une image du réel que ces délinquants ont envie de retrouver, alors que Dale est en train lui-même de fabriquer une fiction pour les piéger. Enfin, tout ça, c'est intéressant, la façon dont ça circule. Ouais.
David André, réalisateur de Dale, l'infiltré, une série en 4 épisodes à voir d'ici la fin de l'année sur Canal+. Et quant à nous, eh bien, on va suivre le 2e épisode de cette interview juste après Tatum Roche sur Couleur 3.
Dici che non ti avrò mai, ma poi mi balli quella samba baby dai. Volo a Cancun, scalo in Qatar, fiamme nel tiki 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 bar. Hai lo style da superstar, però ti manca quella techno da Bergain. O in Latina quando parte il party, metti su Ricky 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 Martin. Tipica finta bohemian, nel canneto parcheggi una Benz. Resto a galla nel superficiale, la piscina è riempita di seltz. Parte già il bolero di Ravel, voglio solo la creme della creme. Mezza nuda come a carnevale, non esistono più le lap dance. Dai Panema le blonde, dai Panema le blonde, fai volare quei fianchi, voglio il nome di tutti quei santi prima di lasciarti. Dai Panema le blonde, dai Panema le blonde, fai volare quei fianchi, voglio il nome di tutti quei santi prima di lasciarti. Fiamme nel tiki 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 bar. Hai lo style da superstar, però ti manca quella techno da Bergain. O in Latina quando parte il party, metti su Ricky 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 Martin. Ricky Martin. Sono un tipo da cabriolet, San Francisco nel 53. Parleremo del paranormale o di quando sei nata a Belém. Voglio un'ora di pace con te, pazzo come l'ex della Belém. Per vederti c'è chi fa la fila, fuori al freddo, in maniche corte. Dai Panema le blonde, dai Panema le blonde, fai volare quei fianchi, voglio il nome di tutti quei santi prima di lasciarti. Dai Panema le blonde.
chiamano il tiki 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 bar. Hai lo style da superstar, però ti manca quella techno da Bergain. O in Latina quando parte il party, metti su Ricky 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 Martin.
Dès l'infiltré, deuxième partie. Dès l'infiltré, c'est le titre d'une série documentaire en 4 épisodes consacrée, comme son nom l'indique, à un flic sous couverture qui avait la particularité d'être un vrai pasteur dans la vie, mais une fausse crapule œuvrant pour le compte du FBI.
C'est ça, un super personnage pour une super série. Généralement, la clé du succès est là. Hein. Il faut un bon sujet et un bon protagoniste pour que le film ou la série fonctionne. Ça aurait pu être un unitaire pour le cinéma, mais la bonne idée a été justement de prendre l'option de la série, car à chaque épisode, Dale interprète un nouveau personnage, donc on suit une nouvelle affaire. En plus des archives de Dale, qui raconte aussi face caméra ce qui lui est arrivé, raconte ses souvenirs, eh bien on a tout un tas d'autres protagonistes qui ont bossé avec lui ou pour lui. Dale donc raconte aussi ses souvenirs et aussi. Mais personnellement, moi ce que je trouve fabuleux, c'est que quand même, à la base, ce type Dale, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout taillé pour un rôle de flic undercover, comme on dit. David André, pour compléter.
C'est vraiment quelqu'un qui n'était pas fait pour ça.
Oui, en plus.
C'est quelqu'un qui est tout maigrichon, qui sort du séminaire, enfin des écoles pour devenir pasteur aux États-Unis, qui a fait des études religieuses, qui rentre dans la police, tout le monde se fout de sa gueule quand il arrive, parce qu'il a vraiment pas l'air. Alors que c'est la guerre à moitié dehors à Washington, les gens se tirent dessus. Et finalement, c'est de cette faiblesse, il fait une force. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pas l'air menaçant. Donc, à chaque fois qu'il crée des personnages, c'est des personnages qui lui ressemblent. Qui c'est un mafieux assez souriant, c'est un dealer mexicain assez sympa, c'est un patron de studio de rap blagueur. Et au fond, il essaye. Les personnages sont à la fois d'autres que lui, et à la fois ils ont une part assez proche de sa nature, ce qui lui permet justement de ne pas se prendre les pieds dans le tapis, de ne pas trop jouer quelqu'un qu'il ne serait pas. Et c'est ce qu'il enseigne d'ailleurs aujourd'hui dans les écoles du FBI aux États-Unis sur l'infiltration. C'est voilà, pour être infiltré, il faut quand même être assez proche de soi-même, pas faire un accent qu'on va oublier, pas inventer un prénom dont on va pas se souvenir un jour, pas trop sortir de soi-même, et pas jouer le tough guy, le mec costaud, dangereux, si on n'a pas cette nature. Et donc c'est intéressant, on apprend aussi des choses sur cet art qui est quelque chose de particulier.
Donc il a mis en danger sa vie hein, tout au long de ces 25 ans d'infiltration. Est-ce que le fait de faire justement maintenant, de dévoiler au grand jour qu'il était un flic infiltré, ça le met en danger ou pas du tout?
C'est une question qu'on lui a posée beaucoup. C'est une question dont il s'amuse. Il dit de toute façon, les gens qui veulent me trouver aujourd'hui, ils me trouvent. Hein. Je suis dans une église, il y a mon nom, il y a des gens que j'ai envoyés en prison qui y sont encore. Bon, que je fasse ce film ou que je le fasse pas, de toute façon, il y a un risque. Je sais qu'au début, quand il a pris sa retraite, il était quand même dans son église avec un flingue scotché à son mollet dans les premiers mois. Aujourd'hui, voilà, je pense que le temps a un peu passé et que est-ce que des gens vont avoir envie de prendre le risque pénal, judiciaire, de s'en prendre à ce policier un peu légendaire et tout. Mais moi, je pense qu'il y a quand même, on sait jamais, il y a un risque. Hein.
Il y a quand même une question aussi qui se pose quand on regarde le film comme ça, c'est d'un point de vue éthique. Quoi. Le FBI fabrique des façades de toutes pièces pour piéger des criminels et les pousser quelque part au crime pour pouvoir les arrêter. Vous êtes posé cette question aussi hein?
Bien sûr, c'est par rapport aux polices européennes ou à la police française, le FBI, le Metropolitan Police Department, qui est la police de Washington, ils ont une culture qui est différente. Ils ont des moyens et une efficacité aussi qui est différente. En France, on ne peut pas pousser quelqu'un à commettre un crime. Aux États-Unis, non plus. Il y a la notion de piégeage, entrapment, disent les Américains. La police n'a pas le droit de piéger les gens. Elle n'a pas le droit de dire à quelqu'un, tu veux pas, je te file $25,000 si tu me trouves de la cocaïne, si la personne n'a rien fait avant. Donc, il faut absolument qu'ils ciblent des gens qui ont déjà un casier judiciaire, une enquête de la police, des fortes suspicions d'assassinat, de trafic, etc., pour les prolonger en quelque sorte et obtenir des preuves de leurs activités criminelles. Mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui est à la limite de d'une question morale. Est-ce qu'on peut pousser à quelqu'un à commettre un crime pour qu'il arrête d'en commettre, en quelque sorte? Et on pourrait se poser la question, par exemple, sur des villes comme Marseille aujourd'hui, encore une fois, où il y a une cinquantaine de morts par balle par an à cause de la guerre des gangs. Bon, est-ce qu'au nom de la tranquillité des habitants, on pourrait adopter des méthodes qui soient des méthodes limites, des méthodes de piège, des méthodes de création de fausses identités, de légendes pour pousser les chefs du trafic à finalement tomber dans des pièges? La question se pose, les Américains se la posent moins que nous.
Ouais. Mais vous l'êtes posée?
Bien sûr, je me la pose aussi, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est une question qui est difficile, à laquelle il est difficile de répondre. À la fois, c'est dérangeant pour nous, je pense. C'est dérangeant parfois de voir ça. À la fois, on se dit que une démocratie, c'est aussi l'ordre public, c'est aussi que les gens puissent sortir de chez eux sans se faire tirer dessus, qu'il n'y ait pas des gangs qui contrôlent les cages d'escalier. Donc, quels sont jusqu'où, quels sont les moyens légitimes pour mettre fin à ça? Il y a des différences d'approche entre les Américains et les Européens, mais ouais, c'est une question qui n'est pas facile à trancher d'un point de vue éthique, je trouve.
Là, quand vous avez toutes ces images d'archives, comment vous orchestrez un peu le puzzle, quoi? Qu'est-ce qui décide de ce que vous allez garder ou de ce que vous allez évincer?
Ça a été un processus assez complexe. Ça a été complexe d'abord parce que les archives en anglais contiennent des heures et des heures de conversations entre Dale et les gens dont l'accent des quartiers, donc c'est comme si c'était du verlan d'une cité en France avec des communautés hispaniques, des communautés noires afro-américaines, etc., des jeunes. Donc c'était très compliqué de comprendre les enjeux de ce qui se déroulait dans ces vidéos. Ça a été des heures et des heures et des heures de travail. Et ensuite, une fois qu'on comprenait un peu les enjeux des scènes, c'était d'amener Dale à nous les expliquer, en donner le sens, en nous expliquer ce qui était en jeu aussi dans ces scènes, faire commenter aussi tout ça par des substituts du procureur, d'autres policiers, et en même temps aussi essayer de construire une dramaturgie, c'est-à-dire qu'on n'ait pas l'impression au deuxième ou au troisième épisode qu'on en est au même point qu'au premier. Il faut que ça progresse. Donc c'est aussi l'itinéraire d'un policier undercover qui se trouve devant des choses de plus en plus dangereuses, de plus en plus complexes, de plus en plus osées, jusqu'à des moments où ça devient très compliqué, où c'est le hasard qui le sauve parfois. C'est vraiment la chance, il a eu beaucoup de chance.
Pour l'utilisation des images, le FBI ou je ne sais qui doit donner son accord?
Alors, on a sollicité l'accord de la police de Washington et du FBI, qui n'ont pas été très chauds. On a pris la décision de faire la série avec les archives de Dale, sans leur accord pour l'instant. Et on imagine qu'en le voyant, leur crainte que quelque chose soit dérangeant pour la police ou pour le FBI soit levée, puisque je pense que c'est une série qui est équilibrée sur leur travail, même si elle pose aussi certaines questions, notamment sur les questions raciales, les questions sociales, qui sont abordées un peu. Mais je pense que on devrait pouvoir utiliser ça sans problème.
Oui, parce que c'est vrai que ce que vous racontez, mine de rien, par son intermédiaire, c'est Washington depuis 1988 jusqu'à début des années 2000, quoi.
C'est ça. C'est une histoire qui a été... c'est l'histoire de Washington qui a été parfois décrite par des romanciers américains. Je pense à Pelecanos, qui est un des scénaristes de The Wire, qui a raconté vraiment cette histoire. On a du mal à imaginer que la capitale fédérale, avec le Capitole, la Maison Blanche, était la ville la plus meurtrière des États-Unis. On a du mal à imaginer qu'il y avait 3, 4, 5, 10 fusillades par nuit, avec un nombre incalculable de décès, de blessés. C'est une ville qui était en feu, quoi. Et donc ça raconte aussi cette histoire-là. Ouais.
David André, le réalisateur de Dale, l'infiltré, 4 épisodes de 30 minutes qui seront diffusés sur Canal+ d'ici la fin de l'année, une série documentaire qui a fait les belles heures de Cannes Série début avril. Cannes, tu vas y retourner très bientôt, il me semble, Fifi.
Ouais, j'aurai la joie de vous proposer une émission La Cavale en direct le vendredi 24 mai à la place de Superflume avec Stéphane en co-anime. Le festival s'annonce pas trop mal avec Quentin Dupieux en ouverture, Mégalopolis de Coppola en sélection, un Mad Max Sherazade, George Miller en plein milieu, et puis des palmes d'honneur remises à Kevin Costner ou George Lucas aussi.
Bon, ça va.
Ah, c'est pas mal, hein, je pense, hein, du 14-25 mai à Cannes.
Y a pas une petite place pour moi ?
Bah, tu viens quand tu veux.
Hein. Allez.
Contrairement à la physique classique, la physique quantique n'est pas justiciable d'une formulation totalement objective.
J'ai rien compris.
Tu es un ou une grosse nulos en physique, on est deux, toi non plus, tu ne sais pas ce que c'est un électron, tu te débrouilles à peu près en disant aux enfants qui posent beaucoup trop de questions que c'est un petit machin tout petit qui tourne un peu là et qui fait que tout existe. Eh bien voici une porte de sortie pour éviter toute discussion gênante. Réponds à ces enfants que électron, c'est le nom d'un festival. Du 18 avril au 12 mai, Electron Festival revient à Genève avec un programme qui vous fera oublier votre médiocrité. Tout au long du festival, visitez l'exposition de photos Electronic Landscapes, Music, Space and Resistance in Detroit sur la promenade Saint-Antoine et à la galerie Polo Marco.
Marco Polo.
Et le 10 mai au Grand Théâtre de Genève, ne manquez pas un live avec Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest featuring Jean Fidari et Rachida Ali, mais aussi des DJ sets dans l'Atrium et dans le Bar Bleu, l'association ADSR qui présentera plusieurs artistes dont Boudaman et 141N3T. Toute la programmation et les infos sur Electron, c'est sur electronfestival.ch et dans le Poulpe sur RTS Couleur 3.
Le Poulpe.
Eh ben oui, mais je profite de l'occasion pour vous annoncer que demain jeudi, le festival Electron sera l'invité du Poulpe. Enfin, c'est pas le festival qui sera invité, parce qu'on peut pas inviter un festival, puisqu'un festival, c'est pas une vraie personne. À moins que... Non, attendez. Je vais vite quand même vérifier. Shit, non, merde. Ah non, c'est ça. Non, c'est bien. Alors, c'est tout le festival Electron qui est invité dans l'émission de demain. Bon, eh ben, on va être à l'étroit dans les studios. Casabian tenait vraiment, vraiment à interpréter ce morceau juste avant les infos. Des fois, les fantasmes, hein, bizarre.
Couleur 3.